I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed.
Je vous ai compris.
Non, vous n'avez rien fait tant qu'il y a au-dessous de nous une partie du peuple qui désespère. Vous n'avez rien fait tant que ceux qui sont dans la force de l'âge et qui travaillent peuvent être sans pain.
Yet, you all come to us young people for hope. How dare you? You have stolen my dreams, my childhood with your empty words. And yet, I'm one of the lucky ones.
Bonjour et bienvenue dans l'émission Jeune et éloquent. Sur la Radio Campus Tour 99.5 ou sur le site radiocampustour.com. Nous sommes les élèves de 3e du groupe Éloquence du collège Réfessoire de Bléré et nous sommes rassemblés au CDI pour enregistrer notre émission Être ou ne pas être éloquent.
Depuis le début septembre 2020, nous travaillons un vendredi sur deux en plus de nos cours habituels sur les techniques de l'éloquence encadrées par deux professeurs de français, Madame Durand et Monsieur Colavolpe, et de notre documentaliste Madame Jarry. Je passe la parole à Maïwenn qui va vous expliquer en quoi consiste notre projet.
En général, un éloge sert à défendre nos convictions. Eh bien nous, nous avons décidé de faire le contraire. Qui défendrait la paresse? Qui défendrait le narcissisme? Qui défendrait les animaux répugnants? Nous. Nous, nous sommes lancés ce défi. Nous sommes devenus les avocats du diable. Et là, tout de suite, Justine et Amélie vont vous faire l'éloge paradoxal des écrans.
Nous sommes sûrs que vous pensez, comme tout le monde, que les écrans perturbent la concentration. Pourtant, nous allons vous montrer qu'ils sont utiles. Les écrans ont une mauvaise réputation. Quand on est devant notre écran, certains disent qu'on ressemble à des animaux. Par exemple, on peut être assimilé à une sangsue collée à la paroi d'une pierre. D'autres disent qu'on ressemble énormément à des chats, car on se frotte trop à des écrans. Mais on nous assimile aussi à des poissons, car on est coincé à une paroi de verre. Enfin, d'autres disent qu'on leur ressemble à des ours dans leur caverne, car on reste trop isolé quand on est trop sur les écrans.
Nous deux, on adore passer du temps sur les écrans. Oui, nous l'affirmons, nous sommes accros, surtout de nos ordinateurs et de nos téléphones portables. Cela nous détend, car nous pouvons discuter avec nos amis et camarades de classe. Quand par exemple nous sommes en distanciel pour les cours. Une dose raisonnable et c'est un effet minime. Nous ne prenons pas nos écrans comme un réflexe, mais comme une extension de nous-mêmes vers l'extérieur.
Si nous postons une photo de nous sur un réseau social, c'est afin de ne pas être oublié par les autres. De plus, on choisit la photo, celle qui nous plaît le plus. Cela nous permet d'être moins angoissés, car le jugement sera moins dur. Les temps des écrans dédiés aux réseaux sociaux sont importants pour nous, car c'est un lieu d'échange. Ces échanges nous permettent de nous définir comme individus, de nous inscrire dans le monde qui nous entoure. C'est donc un plaisir de communiquer et d'avoir un lien entre ados.
Le temps devant les écrans où nous jouons aux jeux vidéo en ligne à plusieurs nous apporte, comme les jeux de société traditionnels, le développement de l'identité, de la conscience et de la socialisation. De plus, les professeurs nous demandent quelquefois de réaliser un exposé. Nous utilisons donc les écrans afin d'enrichir nos connaissances et de les synthétiser. Savez-vous que les écrans sont bénéfiques pour la concentration? Nous apprenons enfin un savoir-faire que les anciens ne maîtrisent pas forcément. Nous pouvons donc les aider dans leur démarche et nous sentir valorisés.
Les écrans, dans mon cas, me permettent de faciliter les jeux d'échange avec une tablette tactile configurée pour ma petite sœur autiste. C'est amusant et je peux jouer un rôle de grande sœur. Les écrans sont donc plus une solution qu'un problème. Qu'en dites-vous ?
Quelle technologie peut à la fois améliorer notre comportement, notre développement cognitif, apprentissage, langage et pensée, et notre interaction sociale ?
Eh bien, les écrans.
Et maintenant, voici Julia pour l'éloge du narcissisme.
Avez-vous déjà rencontré ou croisé une personne avec une confiance en soi très élevée? Cette personne à qui vous ne parlez peut-être plus, parce qu'elle ne prête attention qu'à sa personne ou qu'à ses actions? Eh oui, vous l'avez deviné, cela paraît logique. Je vais vous parler des magnifiques personnes narcissiques. Vous ne les aimez point? Mais je ne vois pas pourquoi. Elles ne doutent de rien et sont pleines d'énergie. Vous avez des complexes? Elles, non. Enfin, moi, non. Je n'ai pas le temps de complexer sur mon corps, vraiment. Encore moins pour être triste. Vous dites? Les critiques. Devrais-je y accorder une once d'importance? Je n'y crois guère. Ceux qui me critiquent sont jaloux. Et ceux qui me regardent de travers sont tout simplement des fans. Je n'ai pas besoin de me soucier du regard des autres. Voyons, pas le temps pour ces enfantillages. Moi, au moins, je pense positif. Et je vis positif. Alors, juste un conseil. Mon magnifique conseil. Soyez narcissique. Au lieu de blablater, de vous lamenter, de vous plaindre. Disgrâce, je dois vous laisser. Mes géniteurs s'impatientent. Entre nous, je ne pense pas qu'ils peuvent se passer de moi.
Maintenant, nous allons écouter Je gère de Ami Yerewolo, une artiste malienne qui défend la cause des femmes.
Mosta kundamba
Nous venons d'écouter Julia et maintenant Phoebe pour la solitude.
Le prix de la liberté, c'est la solitude, de Hervé Gattet. La solitude, oh là 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 là, la solitude. Cet état si souvent critiqué. Et pourquoi ? Moi ? Je suis sûre que je peux vous faire changer d'avis. Vous ne me croyez pas ? Écoutez-moi quelques minutes et vous verrez. Quand on est seul, on n'a pas d'amis. Quand on est seul, on n'est pas cool. Quand on est seul, on l'a mérité ? Eh bien, figurez-vous que non. Quand on est seul, au moins, on n'a pas de problème. Comme on peut être trompé ou on peut nous mentir. Enfin bref, je ne vais pas tout vous énumérer. Vous vous rappelez de Tonton Jaco ? Mais si, celui qui s'est fait tromper par sa fiancée. Certes, il a pleuré au début. Mais maintenant, vous ne le reconnaîtriez même plus. Il est seul, mais tranquille. Sans personne pour lui dire « range ses chaussettes, mets la table, fais à manger ». Croyez-moi, il est mieux tout seul. Dites-moi, quand vous avez des amis, c'est-à-dire ceux qui vont vous trahir dans pas longtemps, vous vous concentrez sur vous-même ou sur vos cours ? Eh bien non. Parce que d'une part, vous êtes concentré sur votre réputation, puis d'une autre part, il y a toujours un ami qui vous envoie un message pour vous appeler ou pour sortir ou même pour parler de ce qui ne va pas. Mais dites-moi, vous n'avez pas assez de problèmes à gérer ? Si, alors ne vous occupez pas de ceux des autres. Enfin bref, revenons à mon idée de départ. Vous n'avez pas le temps pour prendre soin de vous ou même pour vous occuper de votre avenir. Parce que, croyez-moi, vos amis ne vont pas rester longtemps. Et puis, entre nous, autant acheter un cheval ou une biquette ou même un chat si vous n'avez pas la place. Parce que, personnellement, je n'ai jamais connu un chat qui parle ou même un poney qui répète les secrets. Comment vous convaincre autrement ? Ah oui, l'effet groupe. Vous savez, un peu comme un troupeau de moutons. Ah là là, cet magnifique effet de groupe. Celui qui peut influencer sur tellement de choses négatives, comme fumer ou boire, alors que tout seul, tu ne l'aurais jamais fait. Quand tu es seul, calme et serein, tu peux faire tes propres choix, sans te faire influencer par un groupe. Pour résumer, vaut mieux être un loup solitaire et marcher sereinement, plutôt qu'un mouton sans personnalité qui a toujours besoin d'un troupeau pour se sentir bien. Et comme dit Marc Lévy, la solitude peut être une forme de compagnie.
À présent, Pedro dans l'éloge paradoxal des animaux répugnants.
Avez-vous déjà caressé les écailles d'un serpent ? Avez-vous déjà pris une araignée dans votre main ? Avez-vous déjà lancé un ver de terre sur une camarade pour lui faire peur? Moi, oui. Vous savez, nous trouvons tous ces animaux répugnants, mais personne ne les a regardés de plus près. Personne ne s'est intéressé à eux. Pourtant, ils peuvent être très fascinants. Prenez l'araignée. Celle-ci dégoûte et effraie beaucoup de personnes, mais en réalité, elle nous est très utile car elle nous débarrasse de tous ces petits insectes qui nous répugnent. Ah, les vers de terre, combien de fois nous ont-ils fait rigoler ? Souvenez-vous quand vous vous en serviez pour effrayer des camarades. Grâce à eux, nous avons pu créer de beaux souvenirs hilarants et que nous n'oublierons jamais. Intéressons-nous maintenant aux crocodiles. Ils nous effraient. Pourtant, ce sont eux qui devraient être effrayés face à nous. Et oui, c'est nous qui les persécutons, nous qui les tuons pour récupérer leur chair et leurs écailles pour créer des objets, des sacs, des chaussures, des blousons, comme ceux de Johnny Hallyday. Ils s'en servaient même pour décorer sa maison. En fin de compte, il ne faut jamais juger ces animaux à leur apparence, car ils peuvent toujours nous surprendre.
Voici Maïwenn dans l'éloge paradoxal de la colère.
Quand vous entendez le mot colère, vous pensez quoi ? Un visage déformé par la rage ? Une personne qui casse tout ? Qui n'écoute plus personne ? Qui insulte ? Une personne qui explose ? Qui perd le contrôle de soi-même ? Une personne qui tremble de rage ? Une personne qui hurle.
C'est sérieux? Comment si c'est sérieux? Rien du tout, vous m'entendez? Rien du tout! Je délivre le nom de Dieu janvier!
Une personne incontrôlable. Moi, je suis persuadée que je vais trouver les arguments qui vont vous faire changer d'avis. Quand on est en colère, on extériorise, on se libère du mal qu'on a à l'intérieur de soi-même. On se met dans cet état pour arrêter de souffrir intérieurement, pouvoir dire ce que l'on pense, alléger notre souffrance. Quand on est en colère, ça fait du bien, car on se libère de tout. Souvent même, la tristesse est remplacée ou modifiée par la colère. Alors, pas la peine d'être contre la colère ou les personnes en colère. On a le droit, ce n'est pas une honte d'être en colère. Rappelez-vous les fois où vous avez été triste. Vous étiez avant tout envahi par quoi ? Eh bien, par la colère, figurez-vous. La colère est une façon de s'exprimer. C'est efficace pour le bien-être de la personne. Quand vous y réfléchissez, quand vous êtes en colère et que vous l'exprimez, ensuite, quelle sensation ressentez-vous ? Du soulagement ? De la délivrance ? Du bien-être ? Les jugements ne vous atteignent plus ? Voilà. J'espère que j'ai trouvé les arguments pour changer votre vision de la colère.
Avant d'entendre Mathieu sur la paresse, nous allons écouter Lil Peep featuring XXXTentacion pour le titre Falling Down.
Êtes-vous paresseux? Les paresseux sont partout, donc autant assumer. Tout le monde l'est un peu. Vous, moi, tout le monde. Mais vous êtes-vous jamais dit que votre lit est plus confortable qu'une chaise de bureau? Ou encore, ne vous êtes-vous jamais dit qu'un canapé est plus doux que la grosse voix d'un patron? On dit que les gens paresseux ne font rien. Dans la plupart des cas, c'est faux. Le flemmard fait plein de choses, mais à son rythme. On dit qu'avoir la flemme est mauvais, voire nocif. Mais un flemmard a juste une façon de penser et un sens de priorité légèrement différent. En tant que flemmard, je peux vous affirmer que même un paresseux peut vivre la vie avec un grand V, ou même un petit. La paresse peut même, dans certains cas, être bénéfique. Car si l'on a passé une dure journée, et que l'on est aussi tendu qu'un arbre, eh bien, la plupart des paresseux ont l'avantage de pouvoir se détendre et se relaxer rapidement. Bien sûr que l'excès de paresse est mauvais, mais en fin de journée, le week-end, pendant les vacances, la paresse est une activité adorée et pratiquée par énormément de personnes. Si elle n'était pas pratiquée sérieusement avec toute l'énergie nécessaire, cette activité n'aurait aucun intérêt. Si vous voulez devenir un flemmard, ou même que vous êtes juste curieux de savoir comment ils font, je vous rassure, pas besoin d'être le plus gros des paresseux ou d'être fan de Sid dans l'âge de glace pour cela. Peut-être même que vous en êtes un, inconsciemment. Même si vous n'êtes pas sûr, dressez la liste des premières choses que vous faites en rentrant chez vous ou en vous levant. Si vous remarquez qu'il y a une activité qui n'est pas prioritaire, qui n'est pas indispensable ou juste inutile, vous pouvez vous qualifier d'ores et déjà de flemmard. Félicitations. Et si vous ne faites rien de tout ça, eh bien, il faut vous détendre. Pas besoin de stresser pour quelque chose que vous faites tous les jours. J'espère vous avoir fait changer d'avis ou avoir confirmé votre opinion sur les paresseux, car même si nous ne sommes pas mis en avant ou alors à notre désavantage, nous ne sommes pas méchants. Quand on nous fait des reproches, c'est qu'on a eu la flemme de faire quelque chose, donc rien de grave. Je dois vous laisser, il faut que j'aille me reposer. J'ai trop parlé et je suis fatigué. Au revoir et bonne journée à tous.
Enfin, nous terminons par l'éloge paradoxal d'Ambre, la tristesse.
Je sais quel regard vous portez sur la tristesse. Les petits chagrins, les larmes, les jérémiades, la douleur, la dépression, l'abattement, la faim, la sinistrose. Oui, c'est vrai, vu comme ça, on a tous envie de pleurer. Mais franchement, je préfère largement les personnes tristes aux personnes ayant toujours le sourire. Elle m'écœure. À la fin de ce discours, je vous promets que vous aurez le même avis que moi. Pensez-vous réellement que pleurer ne vous apporte que du négatif? Non, ne me faites pas croire ça. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai. Vous savez, quand vous pleurez le soir, seul dans votre chambre, il y a tellement de bons côtés. Oui, je vais vous les citer parce que vous n'avez pas l'air de voir tout le bien que cela procure. Les sommeils profonds qui arrivent seulement après avoir bien pleuré. Vous n'y avez pas pensé. Et puis, on se reprend en main. On réfléchit. On change certaines choses de notre personnalité. On se libère. Et au final, le lendemain, on sourit. Oui, je sais, c'est très bizarre, mais la tristesse permet d'être libre, de ne pas se renfermer sur soi-même. C'est une forme de bonheur. Après, je ne dis pas que je préférerais terminer comme Émilie, qui s'est exprimée sur Instagram. Oui, elle était si triste, et elle a mis fin à ses jours. Mais j'aimerais plutôt être comme Anna, qui, pour une fois, en étant triste, pense à autre chose qu'aux histoires de ses copines. Alors, êtes-vous convaincu que la tristesse n'est pas que péjoratif, mais une chose merveilleuse?
Alors, avez-vous changé de regard sur la paresse, sur les animaux répugnants ou encore sur la colère? En tout cas, merci de nous avoir écoutés sur Radio Campus Tour 99.5 et retrouvez notre podcast sur radiocampustour.com.
Au revoir!